Le Festival des Solidarités revient pour une 24e édition du 12 au 28 novembre. Il invite chacun à porter haut et fort sur son territoire la défense des droits humains et à réfléchir à un monde plus juste, plus solidaire et plus durable. Pendant 2 semaines, venez transformer le monde, assister à des concerts, des conférences, des projections, des ateliers, des animations proposées par des associations, collectivités, structures et citoyens de la région. Rendez-vous donc du 12 au 28 novembre en Hauts-de-France, un événement coordonné par Liane Coopération.
Écoutez Radio Campus 106.6 FM et il est 17h, l'heure de retrouver notre séquence consacrée à Cité Philo. Cité Philo qui donc est en pleine effervescence, ébullition qui vous met en transe, je n'en doute pas. Et ça jusqu'au 13 décembre. On va parler aujourd'hui plutôt la partie cinéma avec Jacques Lemierre qui nous a rejoint. Bonjour Jacques Lemierre.
Bonjour.
Donc le cinéma, c'est une part traditionnelle dans ce festival. C'est peut-être original pour un festival de philosophie.
Bon, je peux expliquer comment le cinéma est arrivé dans Cité Philo. Cité Philo a été créé en 1997 et... Le cinéma n'y existait pas vraiment. Je me souviens toutefois que Cité Philo a quelquefois eu des pays invités et qui n'étaient pas des personnalités invitées. Je me souviens toutefois que, par exemple, quand il y a eu une édition Pays invité l'Inde, voilà, il y avait un film, Gandhi. Mmh. C'était une sorte de clin d'œil illustratif. Le cinéma était dans un rôle illustratif. Mmh. Et quand le... Moi, j'étais auditeur des conférences de Cité Philo. Je conviais très largement, mais vraiment très très largement, mes étudiants de sociologie, d'anthropologie d'y aller pour trouver justement autre chose que le strict corpus de textes de sociologie ou d'ethnologie sur lesquels il travaillait, rencontrait des auteurs d'autres horizons, dont l'horizon philosophique. Et j'ai appris que Cité Philo, c'était à la fin de l'édition 1999, allait inviter le Portugal. Et travaillant sur le cinéma portugais, connaissant très très bien ce pays, je me suis permis d'adresser un courrier au fondateur de Cité Philo, responsable, en leur disant « Écoutez, si j'ai le sentiment que si vous allez au Portugal, vous trouverez la pensée, parce que c'est ça Cité Philo, c'est pas seulement la philosophie comme discipline, c'est la pensée en réalité. Il y a les sciences sociales, les sciences humaines, les arts sont pas absents, Cité Philo. Vous trouverez la pensée avant tout au Portugal, dans les arts, le roman, la poésie, le cinéma. Et comme j'animais une association pour promouvoir le cinéma portugais, je leur ai dit, écoutez, chiche, je vous propose une programmation. Et je leur ai proposé une programmation qui s'appelait Portugal, un cinéma qui pense le pays, qui pense ses écrivains, et qui pense aussi le cinéma. Mmh. Voilà. Et donc on a fait une programmation, et c'est la première fois qu'il y a une programmation complète dans Cité Philo. Et les amis m'ont dit, après, écoute, est-ce que tu veux bien rester parmi nous, et tu t'occupes du cinéma? Et à partir de là, on a créé ce qu'on a appelé un week-end de cinéma, qui, en général, prend le dimanche, c'était le troisième dimanche quand Cité Philo faisait strictement 3 semaines, et qui quelquefois débordait un samedi soir, un peu sur le lundi, etc. Mmh. Depuis, le cinéma est présent sous la forme de ce week-end, et je dirais qu'il est présent dans la conception suivante, c'est-à-dire il s'agit de faire confiance au fait que dans les films, ou en tout cas dans ceux qu'on choisit, il y a de la pensée. Donc c'est le film qui est lui-même un lieu de pensée. Voilà, mmh. C'est ça l'idée. Et donc ça, c'est la première forme canonique. On a commencé à une pratique assez récente. Ça a commencé il y a trois ans. Je suis un peu perdu avec la pandémie. Je ne sais plus très bien comment on compte, mais ça, je crois que tout le monde est un peu dans ce cas-là. Mmh. Disons que pour la troisième fois cette année, un film a été soumis à l'exercice de commentaires et d'analyse par notre invité d'honneur. On a commencé avec Christian Jambé, quand Christian Jambé, qui est un grand connaisseur, un fin connaisseur de la Perse, de la tradition persane en Iran, de la philosophie islamique d'origine iranienne, a commenté Close Up, un film de Kiarostami. On a répété la chose quand on a eu comme invité d'honneur Philippe Descola. Et là, je connaissais un film réalisé par un réalisateur portugais, un jeune, João Solavisa, qui a une compagne brésilienne qui était déjà engagée dans la connaissance intime d'une communauté indienne, pas d'Amazonie, mais du nord-est, au bord de l'Amazonie. Et ils ont réalisé un film, moi que je trouve magnifique, pas sur les Indiens, mais avec eux, qui s'appelle Le Chant de la Forêt. Et on a soumis ce film à la réaction de Philippe Descola, qui d'ailleurs n'avait pas souhaité le voir avant. Donc il y avait un petit exercice comme ça de plongeon de sa part. Et donc, et cette année, c'était dimanche dernier, la quatrième des quatre séquences de l'invité d'honneur Jacques Rancière a consisté à lui proposer à la fois de commenter le travail de Pedro Costa, mais à partir d'un film, Vitalina Varela, et en présence de Pedro Costa. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'est une autre forme de présence. Voilà.
Alors, ce week-end, c'est le grand temps fort pour le cinéma. Hein. Alors, curieusement, le thème de Cité Philo cette année, c'est fiction. Et là, pour le coup, vous allez parler de documentaire.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que... Il y a l'histoire de la pandémie dans cette affaire. Le week-end de cinéma n'est pas forcément articulé au thème.
D'accord.
Pas forcément. Quelquefois, il a son autonomie, déjà. L'année dernière, il était articulé au thème. Mm-hmm. Le thème de Cité Philo, c'était transmettre, éduquer, instituer. Instituer au sens de permettre à des êtres de se tenir debout, mm-hmm. dans le sens étymologique du mot instituteur. Mm-hmm. Et donc, on avait tout un programme sur cette question, éduquer, transmettre, instituer. Et là, j'avais conçu un week-end en relation au thème, qui portait pas sur l'école en général, mais sur l'histoire et le présent en Europe des pédagogies alternatives. Alors, ce programme a été martyrisé par les règlements sanitaires qui nous ont fait fermer, en réalité, l'édition, la forme physique de l'édition de novembre de l'année passée. Et donc, on a souhaité le reprendre avec une double idée. D'une part, que les questions de l'école, qui sont très importantes, ont été plutôt aggravées par les confinements et la pandémie. Et deuxièmement, l'idée que il n'y avait pas eu, à cause de la suspension pour raisons sanitaires de l'édition de l'an passé, de débat public sur l'école avec les auditeurs, les spectateurs qui viennent nos rencontres du thème. Donc nous ne reconstituons pas le thème, nous avons changé de thème, mais j'ai gardé un fil. J'ai proposé d'ailleurs que les films, on va en parler, sont les mêmes que l'année passée. Les invités liés au film sont les mêmes, mais j'ai ajouté à la table ronde qui va terminer ce week-end la présence de Jean-François Rey, qui était l'année dernière le coordinateur du thème mmh. éduquer, transmettre, instituer.
Alors, nous, depuis plusieurs semaines, nous travaillons dans le cadre aussi du Festival des Solidarités Internationales. Mmh. Et je vois que votre première soirée du samedi 20, elle concerne aussi ce partenariat avec aussi le mois du film documentaire.
Alors, effectivement, quand nous avons fait connaître que nous maintenions ce programme de l'an passé sur la question des pédagogies alternatives, le Festival des Solidarités Internationales de la ville de Lille nous a fait savoir qu'ils étaient intéressés à l'inclure dans le festival. Voilà, c'est ainsi que ça s'est passé. Donc effectivement, ce week-end, pédagogie alternative, histoire est présente en Europe. Il a d'ailleurs le double parrainage du Festival des Solidarités Internationales et du mois du film documentaire. Mais puisque tout à l'heure la question était posée, fiction documentaire, en réalité, si on regarde bien les films, il y en a deux incontestablement qui relèvent. Alors autant qu'on puisse bien évidemment établir une frontière étanche entre cinéma et documentaire, c'est une frontière impossible. Le livre de Jean-Louis Comolli qui sera commenté le lundi 22 novembre ne parle de ça, mais le film de deux des trois films sont incontestablement des films documentaires. Le premier, c'est le film d'Olivier Pagani, qui est un professeur des écoles de la métropole lilloise, mais aussi un réalisateur, et qui accueille des enfants dans ses classes qui ne sont pas des enfants, qui sont des primo-arrivants, qui ne sont pas des enfants de langue française maternelle. Il les reçoit, ses enfants vont pour partie dans des écoles conventionnelles et puis pour partie avec lui dans des activités particulières et Olivier Pagani est un adepte de la pédagogie freinée. Mais comme il est réalisateur, bien évidemment, il modernise Freinet au sens où il ne va pas faire du Freinet avec l'imprimerie du journal de classe, mais avec l'outil audiovisuel.
Maintenant, on peut vraiment voir tout ce qu'on veut. Voilà.
Et là, il ajoute même une dimension supplémentaire. Son film s'appelle Romani Street View. Il s'est rendu compte que plus les années avançaient, plus il avait d'enfants roms dans ses classes. Il s'est intéressé au fait que Google Street avait inclus le territoire roumain dans sa surface, et il a eu l'idée de faire regarder à ses écoliers roms le village d'où ils viennent en Roumanie, ou les villages d'où ils viennent en Roumanie. Et il filme ça, il filme cette découverte par les enfants de leur village, alors qu'ils sont en France, qu'ils sont en France dans des conditions qui ne sont pas les conditions de vie de la maison du départ. Et il va, intéressant les enfants à ce travail autour des images Google Street de leur village roumain, et les filmant, il va avec ce travail-là sortir de l'école et se rapprocher des parents. Donc en fait, et là on a un geste entre le maître d'école, les enfants, les parents, et puis la projection virtuelle sur le pays qui a été quitté, qui est très très intéressante. Là on est dans le documentaire.
Donc il a été quitté, mais il peut rester des liens quand même.
Oui, il peut rester des liens, et bon, mais je ne vais pas tout dévoiler du film, c'est-à-dire je veux pas parler trop du film, mais Olivier Pagani, dans le petit synopsis qu'il donne pour faire connaître le film, dit lui-même que en réalité, de quoi parle-t-on ? On parle de la maison, donc on parle d'un lieu quand même qui porte une attache. Ensuite, ce film-là, on va ouvrir par lui. On va ouvrir
ce samedi à
16h45.
Et c'est où exactement ?
Ça se passe
au Palais des Beaux-Arts.
C'est d'ailleurs là que se passe traditionnellement, depuis toujours, le fameux week-end de cinéma de Cité Philo.
Voilà, c'est vrai qu'il y a une belle salle de cinéma, là, qui n'est pas toujours utilisée, mais... Là,
non, je ne dirais pas que c'est une salle de cinéma, parce que en réalité, là, ça n'est pas un secret, il y a les salles de cinéma qui sont liées à l'exploitation commerciale des films, et qui ont une qualité technique aujourd'hui, à l'heure de la projection numérique, c'est d'être équipées pour projeter le DCP. Et alors là, ça fait une classe de salles.
D'accord.
Et là, vraiment, c'est des salles de cinéma. Au sens technique, pas au sens de l'atmosphère sociale ou collective qu'on peut créer. Ça, on peut le faire ailleurs, dans la salle obscure. Mais par contre, il y a des salles. Et je veux dire que pour des programmateurs comme moi, culturels, qui vont dans des lieux qui ne sont pas des salles de cinéma, il y a des salles qui n'ont pas cet équipement-là. Et ça fait toute la différence au point de vue technique. Alors, ce sont les salles des médiathèques, ce sont les salles des auditoriums des musées, qui ne sont pas le premier lieu doté du point de vue des équipements dans, dans l'économie politique d'un musée. Ce sont les salles des universités, et avec des limitations techniques qui font que...
Si on prend le kino, par exemple.
Alors, le kino, c'est différent, parce que le kino, enfin, c'est un cas unique, ou presque, je crois qu'il y avait un cas semblable à Rennes. En France, c'est une salle qui est à l'intérieur d'un campus universitaire et qui a statut d'exploitation commerciale. Donc, le kino ne se tourne pas seulement vers l'université, ou l'université qui invite des gens d'ailleurs, mais de façon gratuite et culturelle. Le kino fonctionne au registre des salles inscrites au Centre National de la Cinématographie.
Alors, il y a l'Univers aussi à Lille.
L'Univers, je pense qu'il a un statut associatif. Avec une subvention de la ville de Lille, et on est encore dans un autre cas de figure. Je ne sais pas quel est l'équipement actuel, je veux dire, au moment où je parle de l'Univers. Voilà, donc ça c'est pour dire que, bien sûr, salle de cinéma, au sens de l'expérience sociale collective de regarder un film ensemble dans une salle obscure, au PBA, mais au Palais des Beaux-Arts, mais en même temps, voilà, des limitations techniques... auquel nous portons attention, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une bonne qualité de projection des films. Mais voilà, après c'est pas très intéressant d'aller plus loin.
Bien sûr. Donc ce week-end de cinéma, donc on va parler de pédagogie alternative. Donc on a parlé de Freinet et ses développements actuels au travers des supports, des moyens technologiques qu'on peut mettre en œuvre dans des classes. Donc le week-end cinéma va se prolonger donc le dimanche à 10h.
Non, mais je voulais déjà parler du deuxième film du samedi.
Ah ouais.
Parce que justement, je continue sur la question du documentaire et de la fiction. Le film qui va suivre samedi dans la soirée, donc c'est à 18h45. Le film qui va suivre, le film Veuillez Pagani, est un film incontestablement documentaire parce que c'est un travail sur des archives. C'est un magnifique travail de montage d'archives, des archives très très riches, qui documentent tous les courants rêvant d'une autre école, mettant en place une autre école, une école alternative, en Europe, France, Allemagne, Suisse, Italie, Union soviétique. Et qui documente également, donc, outre toutes les figures personnelles qui portent ces projets pédagogiques, leurs rencontres, ce sont des gens qui échangent leurs expériences dans un cadre de réunion internationale. Le film s'appelle « Révolution École 1918-1939 ». Et c'est formidable de voir comment ce rêve d'une autre école a répondu à la boucherie de la guerre 14-18, c'est-à-dire à l'idée... il est urgent de faire des enfants qui soient des enfants libres et qui ne soient pas des bons petits soldats qui vont tomber dans la mobilisation guerrière prochaine. Et donc, il y a toute une efflorescence de théories et de pratiques. Et on va voir passer des figures comme... la figure de Madame Montessori, la figure du Belge Ovid de Crowley, Célestin Freinet, l'Écossais Alexander Neil, voilà des figures, voilà j'ai dit même oui j'oubliais l'Autriche, j'oubliais le Royaume-Uni, voilà l'Europe. Et on va voir comment leurs projets en même temps vont venir se fracasser ou devoir affronter la fin de l'entre-deux-guerres, la montée des fascismes et la perspective de la nouvelle guerre. Voilà. Donc on est dans cette séquence-là.
D'accord.
Et là, donc, incontestablement documentaire. Et pour répondre à la question qui m'était posée, dimanche, ça se prolonge. Et alors là, on est dans un autre cas de figure. Très, très intéressant du point de vue du rapport fiction-documentaire. On a ici un film qui est tourné en 1971, qui s'appelle « Journal d'un maître d'école », et qui est tourné par un des plus grands documentaristes italiens qui s'appelle Vittorio De Seta. Dis De Seta, et pas de Sica. Mmh. Et Vittorio De Seta est un réalisateur qui a réalisé une œuvre documentaire majeure de film qui s'appelle Un monde perdu. Donc il a tourné ça dans les années 53 à 56. Il a filmé des pratiques populaires en voie de disparition.
Ah oui.
Donc, par exemple, la pêche au thon. Et donc, il y a là un art documentaire majeur de Seta. Et Seta dit que, en réalité, il a créé une fiction pédagogique. En fait, voilà, il dit. Alors, il adapte un livre, qui est un livre écrit par. Un maître d'école qui, après 68, a une expérience à raconter d'avoir été maître d'école pendant un an dans une banlieue défavorisée de Rome, où les enfants fuyaient l'école pour aller travailler, et où il s'est attaché à les faire revenir à l'école, grâce bien évidemment à un contact de confiance établi avec leurs parents. Et De Seta s'empare de ce livre et il dit, voulant le porter à l'écran, et c'est même porté au petit écran, parce que ce sont des films qui ont été tournés pour la télévision italienne, la RAI, il dit, notre choix fondamental, ça a été de ne pas faire de film. En réalité, nous avons fait une école et nous l'avons filmée. Donc il va prendre des enfants qui sont des vrais enfants du quartier, les parents sont des vrais parents du quartier, ce ne sont pas des acteurs professionnels. Il va prendre simplement un acteur professionnel pour jouer l'instituteur, pour une actrice professionnelle pour jouer la collègue principale qu'il rencontre dans l'école, quelques collègues, et le directeur de l'école. Sinon, on est donc dans cette idée, moi, que je trouve très belle, faire une école et la filmer, ce qui n'est pas exactement du documentaire et ce qui est le support du livre, qui constitue la trame narrative, et qui n'est pas tout à fait non plus de la fiction. Voilà, on est dans un entre-deux qui est très très intéressant.
D'accord.
Alors c'est un film de 4 épisodes qui est d'une durée totale de 4h30.
Ah ouais.
Mais c'est surtout un film qui a été méconnu par la France, alors qu'il a eu un succès considérable en Italie, puisque il a été vu là-bas par des millions de personnes, avec une croissance progressive de cette fréquentation télévisée au fur et à mesure que la série avançait.
D'accord.
La série des 4 films
avançait. Et est-ce que c'est rediffusé parfois en Italie ?
Ça, je ne saurais pas précisément vous le dire. Par contre, je peux signaler où on trouvera les meilleures sources sur l'histoire de ce film, dans un processus de retour du film en France, c'est-à-dire de mise à jour du film en France, qui est très intéressant, puisque un Italien qui s'appelle Federico Rossine, qui vit à Paris et qui est une figure de recherche indépendante, au sens où il n'est pas attaché à une structure culturelle ou universitaire permanente, qui est une figure de recherche sur le cinéma et d'intervention sur le cinéma, c'est-à-dire qu'il, Federico Rossine, travaille à animer des rencontres dans des festivals de cinéma documentaire, il crée des programmations, il crée des programmations très très intéressantes au film, au festival du film, aux rencontres documentaires de Lussas, c'est pas un festival justement, c'est les rencontres documentaires. Federico Rossine suggère à Sandra Alvarez de Toledo, qui dirige les éditions de l'Arachnéen, et dont il sait qu'elle est l'éditrice de Fernand de Ligny en France, un grand éducateur, il lui suggère de faire un livre sur l'histoire de Journal d'un maître d'école, et donc et de rééditer le DVD. Donc l'Arachnéen, qui bien évidemment s'intéresse au cinéma pour autant que de Ligny, s'est servi de l'outil cinématographique. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Caméré, qui vient d'être publié et qui réunit les écrits de Fernand de Ligny sur le cinéma. Sandra Alvarez de Toledo accueille cette idée et il en résulte un livre DVD, donc le livre signé par Federico Rossine et le DVD, donc avec autorisation de la télévision italienne de projeter le film en France au titre de la promotion du livre DVD. Voilà, donc il y a ce livre, Journal d'un maître d'école, livre DVD, dans lequel quiconque peut aller reconstituer cette longue histoire.
Alors, une grande chaîne européenne comme Arte, est-ce que ça passionnerait les gens?
Moi, je ne sais pas. Arte s'intéresse à des films et en même temps néglige complètement d'autres films. Arte n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est une chaîne qui, à sa manière, subit la tendance générale du formatage du cinéma documentaire. Donc,
qu'est-ce qui préside, d'un point de vue déontologique, on va dire, cette chaîne? Il y a des gens qui sont...
Moi, je ne sais...
Parce qu'il y a des choses très intéressantes en même temps.
Non, mais je
mais tout n'y est pas, on va dire ça.
Je ne porte pas de jugement sur la programmation d'Arte. Moi, je ne regarde pas la télévision, donc, pas tellement plus Arte. Je ne suis pas un spectateur de télévision, donc je préfère m'abstenir de juger. Ce que je vous dis là, ça vient de ma connaissance des cinéastes qui ont fait l'expérience que leur film n'intéressait pas Arte. Et les cinéastes auxquels je pense sont des cinéastes qui font des films très intéressants et qui n'ont... Alors, il y a ceux à qui on refuse l'aide à la production. Oui. Et il y a ceux dont on néglige le soutien par la diffusion.
Donc,
mais c'est pas mon moi, c'est pas vraiment mon sujet.
Voilà. Donc, dans un festival justement de réflexion, c'est important d'avoir des films un peu atypiques qui ne sont... que rarement vu et qui apporte des sujets qui sont forts. C'est comme le cas aussi, là c'est plus aussi du documentaire de Jean-Louis Comolli. On peut peut-être parler un petit peu.
Alors, moi, sur ce point, c'est-à-dire la question des choix de programmation dans le cadre de Cité Philo, je peux vous dire que pour moi c'est une ligne. C'est une ligne, c'est-à-dire... aider à la mise en visibilité de films qui ne sont pas surmédiatisés. Je pense que c'est moi je vis ça comme une sorte de devoir, aller porter l'éclairage sur ce qui est moins éclairé. Alors, sur ce qui concerne Jean-Louis Comolli, ça n'est, ce qui nous attache à lui dans cette édition de Cité Philo, ça n'est pas un film, c'est un livre qui s'appelle « Une certaine tendance du cinéma documentaire ». Mais je vais pouvoir vous dire que l'écriture de ce livre a été déclenchée par quelque chose qui est arrivé à un film. Alors, le livre s'appelle « Une certaine tendance du cinéma documentaire ». Le titre n'est pas anodin parce que François Truffaut, dans les Cahiers du cinéma de janvier 1954, publie un article court, hein, rien à voir avec l'extension des 85 pages du livre de Comolli, c'est un article, qui est titré « Une certaine tendance du cinéma français ». Et c'est un article qui va fonctionner comme manifeste de la nouvelle vague contre l'académisation du cinéma français des années d'avant, c'est-à-dire les années 50, Delannoy et d'autres. Mmh. Ce que les jeunes loups, entre guillemets, de la nouvelle vague, puisque c'est un peu comme ça qu'ils ont été étiquetés journalistiquement, ont appelé la qualité française. Il faut en finir avec la qualité française des Delannoy et des autres, et il faut faire un autre cinéma, et ça va être la nouvelle vague. 1954. Mmh. Donc c'est pas du tout neutre que Comolli reprenne un titre qui fait clin d'œil à cette expression. Qu'est-ce qui s'est passé qui déclenche l'écriture de ce livre par Comolli? Le livre est paru en 2020 après le confinement du printemps, mais l'essentiel du texte est écrit avant le confinement. Le livre a deux parties, une partie écrite avant le confinement et une partie écrite l'été qui suit le confinement de 2020. Le Festival du Réel à Beaubourg, qui chaque printemps est un festival important de cinéma documentaire, refuse la programmation, qui lui avait été suggérée par Comolli, d'un film que Comolli avait tourné l'année d'avant, sous la forme d'une conversation avec Nicolas Philibert. Le documentariste Nicolas Philibert est celui qui a connu les plus grands records de fréquentation en salle avec des films documentaires. Rappelez-vous l'histoire de « Être et avoir », l'histoire de l'instituteur de classe unique d'un village du Massif central, qui a été vu par beaucoup de gens qui d'habitude ne vont pas voir en salle de cinéma des films documentaires. Et l'œuvre de Philibert est une œuvre considérable dans le cinéma documentaire français, qui a apporté attention à toute une série de lieux, d'institutions. Ça va de la clinique de la Borde de Jean Houry, où il va filmer des patients de la clinique de la Borde qui vont réaliser la pièce de théâtre annuelle, au musée du Louvre, à Radio France, à une école d'infirmiers et d'infirmières, etc., etc. Le film est un film de parole. C'est une conversation entre Jean-Louis Comolli, qui a été filmé sur 5 jours et qui va faire l'objet d'un montage d'1h30, et dans lequel deux cinéastes, parce que Comolli n'est pas qu'un penseur du cinéma, il est également un cinéaste, deux cinéastes qui ont opté pour le documentaire, Comolli a abandonné la fiction pour le documentaire, s'entretiennent méticuleusement de la méthode de travail de Philibert. Et l'argument qui a été donné à Jean-Louis Comolli pour refuser ce film était que ce film n'apporte rien de neuf, sous-entendu à la connaissance du cinéma de Nicolas Philibert, comme si cette connaissance était supposée générale, partagée par tous, établi, qu'il n'y avait pas à faire un pas de plus à propos de cette œuvre. Ça a déclenché chez Jean-Louis Comolli l'écriture de ce livre, et donc cette réflexion sur la certaine tendance du cinéma documentaire, qui d'une certaine façon consiste à dire que on assiste à un paradoxe, que plus le cinéma documentaire est reconnu, financé, qu'il a ses producteurs, ses distributeurs, ses diffuseurs, plus les télévisions absorbent une large partie de cette production, plus sans doute il perd des qualités de lieu de liberté, de lieu d'artisanat et de lieu de réflexion. Que des gens comme Comolli et Philibert lui attribuaient quand ils ont décidé de s'y livrer.
C'est évident, tout un système entre l'économie du cinéma, aussi les financements et donc on va dire une certaine forme de subvention du cinéma en France, c'est quand même assez important comme budget, et des films qui doivent rencontrer leur public ou non, enfin c'est pas aussi simple que ça. Hein. L'argent n'arrive pas forcément à des productions qui ont une qualité majeure, parfois, on ne sait pas, hein. Ça peut être un peu aléatoire.
Mais le problème n'est pas que français. J'ai d'assez bonnes informations, je crois, sur la situation de la production actuelle du cinéma en Belgique, en tout cas dans la partie francophone, c'est-à-dire la communauté Wallonie-Bruxelles, où il y a actuellement des contestations très très fortes de la façon dont fonctionnent les commissions d'attribution des fonds publics de la communauté française Wallonie-Bruxelles, soit pour des films documentaires, soit pour des films qui sont plutôt scénaristiquement des films qu'on classera avec les guillemets requis comme des fictions, avec la critique fréquemment pratiquée que les commissions donnent la parole et le choix final, pour l'essentiel, à des producteurs, et éliminent, par exemple, ceux qui sont des réalisateurs ayant décidé de rester leur propre producteur. Mmh. Parce que ça, dans les pays que je connais, sur lesquels je peux m'exprimer, parce que j'ai un peu de connaissances, d'informations, Portugal, Belgique, France, par exemple, il y a des réalisateurs qui ont absolument décidé de rester leur producteur. Et d'ailleurs, souvent, les règlements du financement des films, dans certains pays, les obligent à renoncer à cela et d'avoir un producteur...
qui est commercial.
Un producteur, en tout cas... qui soient séparés d'eux en tant qu'entité juridique. Si je prends l'exemple de Pedro Costa, qu'on a reçu dimanche dernier pour un dialogue avec Jacques Rancière, Pedro Costa a été produit, quand il était plus jeune, par Paulo Branco, qui était le principal producteur portugais, disons, de ce qu'on appellera les films d'art essai, pour aller vite. Producteur franco-portugais, par ailleurs. Il était établi doublement à Paris et à Lisbonne. Et Pedro Costa, il a fait l'expérience de cette production. Il a fait aussi l'expérience, qu'il a voulu quitter, des grosses équipes, de l'équipe de cinéma classique. Il fait en 1994 un film qui s'appelle Casa de Lave. Il va au Cap-Vert tourner un film dans lequel il y aura des acteurs professionnels et des acteurs qui ne le sont pas, mais avec un scénario. Il est encore dans une forme classique de faire des films. Il va avec des camions et 40 personnes. Bon. Le film, après 2000, la chambre de Vanda, avec la chambre de Vanda, il quitte ce système. Il utilise l'arrivée technologique de la caméra DV, numérique, et finalement, il devient un cinéaste seul, éventuellement avec un collègue qui vient faire un petit peu d'éclairage, mais rien de plus tellement que ça. Mmh. Et aujourd'hui, après 20 ans, puisque je vais parler de Vitalina Varela, qui est de 2019. Le film Vitalina Varela a été tourné sans acteur professionnel, dans le même quartier, ou les mêmes types de quartiers que, informels de Lisbonne que dans la chambre de Vanda, avec 5 personnes, dont Pedro Costa. Voilà. Et donc, alors, là, comment fait-il du point de vue de la production ? Eh bien, le producteur de Pedro Costa est un marchand de vidéos. Il a passé un pacte avec un marchand de vidéos qui était un bon marchand de vidéos, auprès duquel il a appris d'ailleurs à faire son tri dans les machines qui sont proposées pour filmer. Il a passé ce pacte-là, donc il y a une séparation juridique. Il rentre dans les clous de cette disposition réglementaire qui finalement décide de ne pas donner d'argent à un réalisateur qui n'aurait pas de producteur. Mais en réalité, on est dans une situation où le processus qui va faire que Pedro Costa reçoit de l'argent public, c'est finalement son prestige international. Il est reconnu comme un... Dans les milieux qui regardent le cinéma, non pas comme une machine spectaculaire ou une machine à billetterie, mais ceux qui regardent le cinéma comme des lieux d'invention formelle, de nouvelles formes. Comme il est reconnu comme un des grands cinéastes mondiaux, même si beaucoup de gens ne le connaissent pas.
Alors, au point où on en est de cette discussion, est-ce que la créativité et la qualité du cinéma actuel, avec les financements qui existent et qui préservent sans doute ce cinéma, par exemple d'autres pays n'ont pas forcément cette chance, est-ce que la qualité est au rendez-vous et est-ce qu'on sent aussi des tendances de nouveaux talents qui émergent ?
Non, moi, je ne veux pas, comme ça, au lance-pierre, me livrer à des jugements généraux sur la situation. Je pense qu'il y a incontestablement la possibilité, en tout cas dans l'idéal, que plusieurs formes de cinéma existent. Et je ne veux pas blâmer certaines formes. Le point sur lequel j'ai envie d'exercer ma vigilance, c'est le fait que des gens qui sont porteurs de désir de filmer et de bonnes idées et de recherche de nouvelles formes ne soient pas interdits de filmer. Voilà. Alors, les situations critiques sur lesquelles j'attirais l'attention, c'est celle-là. Par exemple, en Belgique, je pense qu'il y a des gens en ce moment qui ne peuvent pas tourner. Et il y a des gens, par contre, qui sont sans doute en position de tourner parce que voilà, ils sont dans une sorte de proposition un peu centrale comme ça qui fait que le marché s'y retrouve. Il y a des phénomènes de marché, voilà, il faut alors le problème c'est que les phénomènes de marché n'écrasent pas toutes les voies, voilà.
Donc il y a plusieurs réseaux aussi, donc chacun se retrouve à un moment donné en position de pouvoir réaliser, créer et proposer au public, c'est pas simple.
Écoutez, il y a plusieurs façons de diffuser les films aussi, c'est-à-dire, voilà, il y a des... Les films ont aussi des durées de vie inaperçues, qui dépasse la quinzaine de jours d'exposition de la sortie commerciale.
Mais oui. En fait, ce qu'on peut imaginer parfois comme étant un échec, au bout de 100 ans, ça peut très bien reprendre une côte.
Bah, de toute façon, des films... oui, c'est le cinéma, il a une histoire et il joue avec le temps. Mais bon, c'est la même chose dans tous les arts.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que des commissions de financement du film écrasent les désirs de cinéma au nom d'une sorte de formatage pour le marché, parce que c'est de la courte vue. Bon, mais là, on est en train de dire des choses très...
Non,
très,
mais en même temps, on ne peut pas imaginer des fondations indépendantes pour le cinéma qui dépassent ça.
Il y a des exemples historiques. Je vais donner un exemple que je connais bien. Le Portugal de la fin du salazarisme, c'est-à-dire des années 60 et 70, hein, le régime étant tombé en 74, le Portugal des années 60 et 70, qui donc connaît un équivalent de la nouvelle vague française avec le cinéma Novo, et puis un désir de cinéma très fort, et qui, dont le régime veut que les films qui ont le soutien de l'État soient peu nombreux et très édifiants et très officiels, va connaître l'engagement d'une fondation, qui est la fondation Carlos Gulbenkian, qui est une fondation privée, fondée sur la fortune d'un pétrolier, d'un industriel du pétrole, et elle va financer des films dans les années 60 et 70, dans un pays où il n'y a pas de ministère de la Culture, et où il y a un ministère de l'Information et de la Propagande. Voilà, bon, je donne cet exemple, on pourrait en trouver mille, c'est une expression. Mmh.
Voilà, ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ces difficultés
en s'échappant des producteurs, en dehors du strict sujet du cinéma à cité philo, mais
voilà, dire au combien donc cette réflexion fait partie aussi de d'une nécessité, hein, de toujours remettre un petit peu en cause les systèmes et puis à amener au public le maximum de diversité et de qualité. Alors là, qualité, c'est un mot un petit peu subjectif. Chacun y met un peu ce qu'il veut, mais l'intérêt et puis peut-être l'originalité et la créativité, c'est peut-être des mots importants.
Oui, puisqu'on si on boucle, une certaine tendance du cinéma documentaire, dit Comoli dans le livre qu'on discutera le lundi 22 novembre, écho de une certaine tendance du cinéma français qui blâmait la qualité française, donc le mot qualité est piégé.
Voilà. Eh bien, ce sera l'occasion de revaloriser ce mot, enfin peut-être de le rediscuter, de le renégocier, pourquoi pas. Donc on va rappeler lundi 22 novembre à partir de 18h. Là, c'est à l'entre-deux, c'est bien ça?
Oui.
Voilà, rue Georges Lefebvre, hein, numéro 1, c'est un lieu de l'université encore, hein, de Lille.
C'est tout à fait un lieu de l'université. C'est la première fois que Cité Philo fait une rencontre à l'entre-deux. Moi, j'en suis très heureux parce que c'est très très belle salle.
Très belle, c'est vrai.
Salle de 85 places, très joli format et une vraie salle avec une vraie régie pour s'occuper de cinéma, de théâtre et de musique. Et c'est Comoli, c'est lundi
à 18h.
À 18h.
Voilà. Merci Jacques Lemierre. Donc pour tous ceux qui veulent un peu creuser cette la semaine qui continue, enfin les semaines jusqu'au 19 décembre, vous avez le magnifique programme qui est très complet et puis le site web qui est citéphilo.org où vous allez retrouver un peu tout ce qu'on a dit, mais avec une autre forme, bien sûr. Merci en tout cas pour cette présentation, Jacques Lemierre, et bonne
merci à vous, merci, merci René, merci Radio Campus.
On va rappeler qu'il y a des conférences qui sont enregistrées, etc. On peut les voir après sur Cité Philo.
Oui, alors toutes les conférences de Cité Philo sont enregistrées, certaines, les moins nombreuses, filmées, donc support audiovisuel, les autres, les plus nombreuses, enregistrées de façon sonore, et elles sont mises sur le site le plus vite possible après qu'elles aient eu lieu.
Bon, voilà. Alors,
celles qui sont filmées peuvent être mises un petit peu plus tard, parce qu'elles peuvent supposer un montage que ne suppose pas les sonores.
Alors, ce qui est vrai cette année, c'est qu'il y a possibilité de venir sur place, et c'est évidemment quelque chose de préférable.
Sous réserve de posséder le passe sanitaire.
Ouais, ça, c'est
malheureusement, des gens qui ne le possèdent pas sont privés de cité philo.
Est-ce que ça se ressent cette année sur le public?
Moi, je peux dire que je reçois des courriers de gens qui ont opté pour ne pas se vacciner et qui me disent que ça les en prive. Voilà. Et qui me pointent les choses qui les intéressaient dans le programme.
Ben oui, c'est... Voilà.
J'observe ça également au nouveau ciné-club que je co-anime avec Youssef Boudjebaï au Méliès. On a fait la rentrée de notre nouvelle programmation en septembre, et on le ressent également. Il y a des gens qui m'ont fait savoir que le programme les intéresse, mais qu'ils n'ont pas le pass.
Voilà. Donc pour eux, ils s'accordent un statut de résistant, d'une certaine manière.
C'est ça, et ils en payent un petit
le prix, petit coup. C'est normal. Voilà. Merci.
Merci
et bon courage pour tout.
Merci beaucoup.